CISO 101.7 avec Luc Deloncourt. À deux, c'est mieux.
Bon vendredi tout le monde, bienvenue à deux, c'est mieux en direct de la bouffe Tifaille, de la belle visite aujourd'hui, Gilbert Lachance. Salut.
Bon, salut, salut.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, c'était très bon.
Gilbert, on te connaît comme comédien, comme acteur qui fait du doublage, mais là, on découvre le musicien, le compositeur, ouais. Le piano qui est là depuis ton enfance. C'était obligé chez vous, non?
C'était obligé, oui. C'était comme apprendre à lire, à écrire, à compter. On apprenait le piano, puis en plus, c'était comme un minimum de 6 ans, parce que ça prend à peu près ça pour commencer à maîtriser l'instrument puis avoir du fun avec. Puis moi, j'ai pogné mon fun justement à partir de ce moment-là. Puis j'ai continué encore 3 ans à Vincent Dindy. C'était des profs de Vincent Dindy, qui est une bonne école à Montréal.
Donc, piano classique.
C'est du piano classique. Et effectivement, je vois où tu veux en venir dans ton œil.
Parce qu'il me semble que oui. Il y a ça, il y a cet amour-là, mais tu es allé plus vers autre chose.
Bien, là, ce que je fais avec cinéma intérieur, c'est plus du néo-classique. Mais à l'époque, quand j'étais petit, ça n'existait pas vraiment. Il y avait peut-être André Gagnon qui faisait de la... Tu sais, il y avait quand même de la musique de piano un peu entre les deux, entre le classique et le pop. Mais à l'école où j'allais, tu sais, c'était vraiment classique. Puis j'étais très impressionné. J'allais voir les concours de piano. Il y en a un d'ailleurs à Montréal en ce moment, le concours des plus grands pianistes, la relève là, des grands pianistes de concert qui jouent du Chopin, du Debussy, du Mozart, machin. Puis je trouvais que je les accotais pas, puis il aurait fallu que je me consacre totalement à ça. Puis ça m'a comme un peu fait opter plus pour une autre passion que j'avais, qui est le jeu. Quand j'ai eu 18-19 ans, là, après mon cégep, j'ai fait une petite année de philosophie aussi après mon cégep. Puis là, ben, je suis allé au conservatoire d'art dramatique, en art dramatique, donc pour le théâtre. C'est comme ça que j'ai parti ma carrière de comédien. Mais j'ai toujours joué du piano, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis j'ai pris des cours avec Lorraine Desmarais. Elle était plus jazz, fait que ça m'a ouvert des horizons un petit peu plus pop, un peu plus décoincé aussi. Tu sais, j'avais besoin de liberté. Parce que quand je pratiquais mes pièces classiques pour Vincent Dindy, tout ça, je chirais, comme on dit. Je commençais à improviser, je prenais les accords. Ah ouais, ça faisait ça de même. Puis, j'essayais toutes sortes d'affaires. J'avais comme le goût de créer ma propre musique. Ce que je n'ai pas fait, ce que j'ai fait, mais dans mon salon pendant des années. Et puis là, j'avais envie de le partager.
Mais donc, tu composais depuis déjà très jeune.
Ouais, j'improvisais surtout. Okay. J'improvisais.
Donc, tu prenais pas de notes. C'était où,
Je prenais pas de notes. Okay. J'en ai même pas encore des notes. Je te jure, je joue tout par cœur. Mes musiques sont pas, ils ont pas de partition encore. D'ailleurs, je vais en créer parce que ça sera peut-être le fun. Mais non, ils n'ont pas de partition. Mais j'improvisais beaucoup. Tu sais, j'étais sur un mood, puis là, paf. J'improvisais à partir. Ben donc, je commençais à jouer du Beethoven. Puis là, ah ouais, mais non, je pourrais faire ça. Puis là, je flyais là-dessus. Comme un jazzman, mais classique, tu sais. Les grands compositeurs comme Beethoven, Chopin, c'était des grands, grands improvisateurs. Puis ils ont formalisé, tu sais, ils ont donné une forme à leurs tunes, à leurs improvisations. Puis ça a donné les sonates qu'on connaît, les impromptus. Mais tu sais, quand on parle impromptu, c'est une forme de musique comme Chopin en a fait, Schubert en a fait. Ben, c'est très improvisé, tu sais, c'est pas, y a pas une structure là, super solide, c'est juste beau, puis le gars, il se laisse aller, puis il note ça, puis il joue, tu sais. Pis c'est un peu ça que j'ai fait avec Cinéma intérieur, c'est parti d'improvisation, puis après ça, ben, j'ai donné une forme plus constante. Fait que quand, dans l'album Cinéma intérieur, la plupart des musiques que j'y joue sont des pièces vraiment... Toujours que je joue pas toujours de la même façon, mais c'est toujours les mêmes notes, mettons, là, parce que selon mon mood, je vais jouer plus vite, plus lentement, oh ouais, j'interprète. Mais il y a d'autres pièces qui sont faites à part. Il y a une structure, puis il y a un moment où, OK, je me laisse aller. T'sais. Il y a une partie qui est improvisée, comme dans la pièce qui s'appelle Sur Laurent, l'eus-tu cru. Il y a un bout, c'est vraiment prévu que j'improvise à ce moment-là.
Puis, ah, c'est jamais pareil.
C'est jamais pareil. Fait que là, ce que vous avez sur l'album, c'est une chose, mais si vous venez me voir en spectacle, ça sera pas pareil. Sitar est fait comme ça. Et puis j'ai le goût de me lancer un petit peu plus aussi dans des moments d'improvisation pendant mes spectacles. C'est jouer sans filet, mais ça m'intéresse, t'sais. Fait que je suis en train d'élaborer ça, puis de me... Ouais, c'est ce qui m'intéresse. Mais au départ, mes créations musicales étaient évanescentes. Je les jouais devant mes amis. Je jouais bon, comme ça, devant ma famille, tout ça. Puis les gens étaient là, mais Caroline, qu'est-ce que tu attends pour faire quelque chose? Et les gens braillaient. Puis je dis, ah oui, c'est oui, ben oui. Puis moi, je me croyais pas. Tu sais, je dis, ben, c'est mes amis, tu sais, ils m'aiment bien. Mais là, je me suis dit, non, il faut vraiment que je fasse un. Que je fasse quelque chose. Puis l'élément déclencheur, ça a été que j'ai joué. Ben, Michel Delaurier, la metteur en scène et grande comédienne, m'a invité. Elle m'avait entendu jouer dans un party, parce que je suis bien copain avec Sébastien Davernas, qui lui aussi vient de sortir un disque
album,
qui s'appelle
oui.
Vénus en Verseau.
Ouais.
Chapeau, mon bon ami Sébastien. D'ailleurs, notre surnom, c'est Bousier. Juste pour, je sais qu'on a une heure devant nous, fait que je vais un petit peu digresser,
vas-y.
Si tu permets. Nos surnoms, on s'appelle hey, Bousier, Bousier. Un Bousier, là, c'est une espèce de petite bébite qui roule une boule de bouffe.
Oui, oui.
On vous est en train de dîner, je m'excuse, là. Mais une petite boule de caca. Puis, parce qu'on faisait ensemble les voix pour les frères Kratt qui expliquaient ouais. la vie aux gens, la vie des animaux. Puis que c'est comme deux biologistes. Puis on a fait ça pendant des années ensemble. Fait que ça nous a beaucoup liés. Puis on parlait énormément pendant ça en doublage. Fait que on s'est dit, on est comme des bousiers, on roule notre petite boule de mots, puis on l'amène où il faut. Fait que c'est notre surnom. Fermez la parenthèse. Michel Delaurier, qui est sa conjointe, elle m'avait entendu jouer à un party, puis ça lui était resté en tête. T'sais, elle aimait ça, elle m'avait dit, ah, bravo, c'est beau. Mais là, je savais pas que ça lui avait plu au point que quand il est venu le temps de concevoir Edgar et ses fantômes 2, parce qu'il y avait eu Edgar et ses fantômes 1, où j'avais pas participé. Il y avait quatre personnages. Il y avait Bach, Mozart, Beethoven, justement, et puis Eric Satie. Mais dans le 2, il fallait qu'il trouve des musiciens de qui on va parler. Puis elle a participé à l'écriture et elle a insisté vraiment pour qu'il y ait George Gershwin, qui est un musicien américain du début du siècle, qui a fait « Summertime, summertime, and the living is easy, puis I got rhythm, I got music. » Alors, lui qui a composé ça...
Qui était moins classique. Gershwin qui était moins classique.
Moins classique, c'est ça, c'est un parfait hybride de classicisme et de jazz. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment su combiner ça. Et elle a pensé à moi pour jouer ça, ce personnage-là. Et elle m'appelle en mois de janvier, genre, pour me dire, « Ouais, serais-tu intéressé à jouer ça? » Oui, mais j'étais terrorisé parce que moi, j'avais refusé de faire des études en musique parce que j'avais peur de fausser, j'avais peur de me planter. Puis je me disais, en tant que comédien, je peux toujours improviser des mots puis je vais me retomber sur mes pattes. Mais non, en théâtre, on joue sans filet, c'est la mémoire, c'est la flanche, qu'est-ce que tu fais? Mais je me sentais plus en mesure de pallier une défaillance qu'en musique. Surtout pour des pièces, quand tu joues de la musique classique, c'est de la musique très connue.
Mm-hmm.
Hein? Tu connais... C'était...
Et les gens qui sont dans la salle la connaissent d'un
oui.
bout à l'autre.
Et
ils savent très bien si t'as pas joué à bonne affaire.
Et ils ont entendu des pianistes incroyables les jouer. Et puis, donc, moi, je m'étais toujours refusé à ça. Je veux dire, ça, j'avais trop peur. Et là, elle me demande de jouer Gershwin. Mais là, je dis « OK ». J'ai dit oui, je pouvais pas dire non à Michel Delaurier, c'est impossible. Et puis le projet était tellement emballant, je veux dire, c'est quand même, je trouve ça le fun parce que c'est un spectacle que j'aimerais tellement qu'il rejoue, là, je veux dire, c'était drôle, ça nous instruisait, t'avais de la musique, t'avais un orchestre sur scène, c'était incroyable. bon, j'aimerais tellement que ça revienne, ça c'est quelque chose qui me reste en tête toujours. Mais à travers ça, ben elle m'a donné confiance dans mes capacités musicales. Et j'ai joué, j'ai pratiqué beaucoup, je me suis vraiment astreint à ça. Puis j'ai réussi à jouer, puis j'ai joué avec un orchestre. J'ai trippé ma vie à jouer avec un orchestre dirigé par Jean-Pascal Hamelin, super sympathique,
oui,
très humain, très un musicien avec une finesse, on est devenus amis depuis, là. Ça a été une expérience extraordinaire de pouvoir partager ça. Puis la distribution, il y avait Jean-François Blanchard, il y avait Antoine Durand, il y avait Sébastien Davernas qui jouait. Il y avait moi, il y avait Catherine Perrin aussi pour Edgar et ses fantômes, qui est elle une claveciniste et une journaliste assez connue,
oui.
Plus là, un orchestre. Et je peux pas tous les nommer malheureusement. Il y avait Myriam Leblanc aussi qui... Attends, c'est-tu Myriam ou Manon? Oh mon Dieu, ça, je trouve ça...
La comédienne, c'est Myriam.
N'est-ce pas? Donc, c'est Manon, une chanteuse d'opéra.
OK.
Et j'avoue que je me souviens plus, je voudrais rendre honneur, mais là, je me suis pas préparé.
C'est pas grave.
Super bon chanteur d'opéra aussi. Donc, et ça m'a mis en contact avec tout cet univers musical-là. Et ça m'a emballé totalement. Et j'ai trouvé ça... J'ai trouvé qu'on avait ça avait sa raison d'être. Les gens étaient vraiment très enthousiasmés de ça. Et ça m'a donné le courage de me dire, regarde, je l'ai joué la pièce, je suis pas mort. Et à ce point, je suis tellement pas mort qu'on m'a demandé par la suite d'aller jouer Edgar et ses fantômes 1 à Paris.
Patrick et ses fantômes avec Patrick Poivre d'Arvor.
Exactement, c'est ça. Ils ont changé l'Edgar pour un Patrick. Comme tu l'as dit. Et là, c'était Eric Satie que je jouais, les gymnopédies, là, les fameux. Et puis là, ben, on a joué à Paris au casino, c'était incroyable. Puis je suis encore pas mort. Fait que je me suis dit, là, dégadine, mon homme, fais ton album. Puis j'avais plusieurs pièces qui dormaient dans mes cartons depuis tout ce temps-là. Fait que je les ai enregistrées, je suis allé en studio, après ça. J'ai trouvé le bon endroit, le bon contexte pour enregistrer, la bonne équipe pour mixer, pour faire du mastering. Il y a beaucoup de pas de musique dans la musique. Hein. Il faut trouver une pochette. J'ai tout entrepris ça, mais d'abord, j'avais des pièces. J'ai 12 pièces sur mon album.
On parlait de ton album Cinéma intérieur, dont le lancement a eu lieu il n'y a pas longtemps à la salle Claude Léveillé de la Place des Arts.
Oui, monsieur.
Il y avait beaucoup de monde.
Beaucoup de monde, c'était plein, plein, plein.
T'as réagi comment, toi qui as hésité longtemps avant d'arriver là? Étais-tu ému? Il y avait des amis de Chambre-en-Ville, entre autres, qui étaient là.
Oui, Louise Deschâtelet. Linda Lemay est venue me voir. Christian-Marc Gendron est venu me voir. Oui, Rémi, Éric Rémy. J'étais ému, touché, enchanté. Je suis encore sur mon nuage. Ça s'est passé le 6 mai. Et voilà, on a lancé l'album. Et le spectacle, le spectacle, évidemment, il est beaucoup plus... il est plus long que l'album. L'album dure environ 42 minutes. Il y a 12 pièces. Juste un petit Jean-Sébastien Bach au début, juste pour dire bonjour au grand maître. Mais après ça, c'est toutes mes compositions. Et au piano solo, je chante pas, c'est juste du piano. Mais pendant le spectacle, entre les pièces, je parle beaucoup, je fais des jokes. Puis ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que les gens ont beaucoup ri. Ils se sont amusés.
Oui. Étais-tu nerveux? Parce que c'est là que ça se passe, j'ai l'impression, un lancement. C'est les pièces que tu as composées, évidemment, les amis les avaient entendues, les aimaient déjà, mais là, c'est la connexion avec le public.
Oui, totalement, totalement. J'avais hâte. Moi, je suis rendu là où j'en suis, j'aurais peut-être pas été comme ça il y a quelques années, mais là, j'ai envie de donner ça au monde. Parce qu'on m'a dit, « Hey, donne le don au monde. » C'est pas cool que...
Tu le gardes pour toi.
Je le dis humblement, là, j'ai l'air de dire, « Bon, mais là, il faut que je donne quelque chose au monde. » Mais pour vrai, je me dis, « Regarde, je l'ai fait pour moi. Les gens me trouvent ça bon. Ben, je vais le partager, puis j'espère que ça va résonner pour les gens. » Mais je le fais avec... une forme de détachement, tu sais. J'ai juste le goût de le lancer, puis s'il aime ça, il aime ça, puis s'il aime pas ça, ben, écoute, la vie continue, tu sais. Mais ils aiment ça, mais beaucoup même. Puis j'en ai des témoignages de toutes sortes de personnes, des personnes qui connaissent la musique, des personnes qui connaissent pas la musique, qui sont juste touchées. Puis c'est ça mon but avec l'album puis avec le spectacle, c'est de toucher les gens. Et si tu veux, on peut parler de pourquoi ça s'appelle Cinéma intérieur.
Ben, ça fait un clin d'œil à l'acteur de Jean Partain.
Ça fait un clin d'œil, effectivement. J'ai fait tellement de doublages avec Jack Sparrow, Pirates des Caraïbes, j'ai fait Johnny Depp, j'ai fait Tom Cruise. Ben, je le fais encore quand ils font des films. Mission Impossible, tout ça. Et puis Gru, le personnage de Gru avec les mignons. Il y a un film qui va sortir bientôt, là. Vous verrez ça. Donc, le titre de l'album, c'est « Cinéma intérieur », parce que premièrement, j'ai fait du cinéma, mais aussi du cinéma par la voix, là, dans l'ombre, par le doublage. Mais aussi, c'est que quand les gens écoutaient mes pièces, les feedbacks que j'avais, c'était « Hey, c'est un film, ta musique, c'est des histoires que tu nous racontes avec tes notes. » j'ai vu toutes sortes d'affaires. J'ai vu, c'est des films. C'est des films, pas d'images. Fait que le mot cinéma, c'est vraiment imposé. Mais évidemment, il n'y a pas de projection. Fait que c'est intérieur.
Chacun fait son image.
Exactement. Je suis la trame sonore de votre monde intérieur. Je suis la trame sonore dont vous êtes le héros. C'est ça un petit peu mon idée derrière ça, parce que c'est ça qu'on m'a dit quand les gens écoutaient. Alors, j'ai écouté les gens, puis j'ai essayé de trouver un titre qui reflétait ça.
Donc, étais-tu à un moment où tu te disais, faut que je le fasse, sinon je le ferai jamais?
Exactement. Exactement. Il y a une forme d'urgence sereine, si ça se peut. Ça fait longtemps que je mijote de faire un spectacle, de faire de la musique, tout ça. Puis, mais très longtemps, des années, là, ça fait peut-être 20 ans, je me dis, ah, fais un show. Puis la forme n'était pas précise. Ça, c'était comme, je ne savais pas par quel bout prendre, aborder ça. Tu sais, j'avais le goût de parler aux gens, mais j'avais le goût de les rencontrer aussi beaucoup. Parce qu'on est toujours dans le noir en doublage, hein, dans notre petit monde. Puis, tu sais, quand je fais Krusty dans Les Simpsons, hé, les enfants! Ça fait rire les gens, sûrement, mais je les vois pas rire, moi.
Non.
Fait que j'avais le goût de les voir rire s'ils trouvaient ça vraiment drôle. Donc, c'est une façon de les rencontrer. Et puis, deux, tu me parlais de l'urgence. Effectivement, on ne rajeunit pas. Là, je vais avoir 60 ans le 18 juin, pour ne rien vous cacher. Il faut le faire avant que nos capacités nous quittent. Je pense pas que ça arrive trop tôt, mais je veux dire, oui, il faut le faire. Puis deux, à un moment donné, on se dit, ouais, mais j'ai peut-être des choses à dire. T'sais, puis ça devient pressant de les exprimer.
Ouais.
Donc, c'est ça qui a fait.
Est-ce que c'est différent parce que tu le fais maintenant que si tu l'avais fait il y a 20 ans? Tu dis, j'y rêve depuis 20 ans. Évidemment, tu n'aurais pas eu les mêmes choses à dire parce que le bagage n'aurait pas été le même. Est-ce que ça arrive à un bon moment?
Ça arrive à un excellent moment. Mais je pense que c'est parfait comme ça. À 20 ans, j'étais juste comme pas capable de m'organiser pour le faire. Je savais pas par quel bout prendre ça. Mais là, j'ai eu tellement d'encouragement. Ma vie aussi a été plus calme. La pandémie a eu un effet double. Ça nous a beaucoup attristés, puis ça nous a isolés beaucoup. Et ça m'a, par conséquent, donné le goût de rencontrer les gens. Puis ça nous a laissé le temps de décanter aussi des affaires. Puis la décantation, l'aspect de décanter, là, c'est tellement important, je trouve, dans nos vies comme personnes. Puis c'est aussi, comment je vois l'album que j'ai fait, c'est un moment pour décanter pour les gens, pour s'accorder un moment... Voir qu'est-ce qui va émerger de moi quand je vais écouter ça. Pas de paroles. Aller au-delà des paroles. J'ai rien contre les chansons.
Non.
Mais, tu sais, à un moment donné, quand tu as toujours un discours, t'es orienté vers ça. Oh, my baby, I lost you. I'm so sad. OK, c'est correct. Donc, my baby, je suis triste, puis tu m'as quitté. Mais là, c'est peut-être ça qui va ressurgir de la musique, mais c'est peut-être complètement autre chose.
Ouais.
Ça va t'attendre. Ta toune à toi, ton imaginaire à toi, ta sensation, ton émotion. Et c'est ça que je veux que... J'espère que les gens vont retrouver en écoutant l'album.
Tu l'as dit tout à l'heure, t'es pas allé à l'école de musique, t'es allé à l'école de théâtre. Ça fait même 40 ans cette année que t'es entré à l'école de théâtre.
Hey, c'est pas ces choses-là devant tout le monde.
Mais rapidement après la sortie de l'école, quelques années plus tard, t'es arrivé chambre en ville.
Ouais.
Est-ce que ça a tout changé le parcours? Vous êtes devenu des grosses vedettes?
Tellement. Ça a été radical. Radical. La première année, il y a eu un engouement, mais la deuxième année, c'est parti en fou, cette affaire-là. Dans les écoles de théâtre, on n'apprend pas à devenir des vedettes. Là. On apprend même à faire plus du théâtre que
de la télé.
Fait que jouer, c'est pas pareil. Quand tu joues au théâtre, il faut que tu fasses tout plus gros. Là. Oh, attends une minute, t'as la caméra qui vient te chercher. Fait que c'est tout un apprentissage techniquement comme comédien, mais au niveau de la visibilité, de la notoriété, c'est troublant. Il y a des gens qui ont plus de facilité avec ça que d'autres. Moi, à l'époque, je comprenais pas, je savais pas comment réagir. J'avoue que j'étais très malhabile. Je m'excuse aux gens envers qui j'ai peut-être été un peu trop gêné puis malhabile, là. Mais pour vrai, ça m'a vraiment déstabilisé. Et d'autant plus que, je te dirais que ce qui est déstabilisant aussi dans un téléroman comme ça, Maintenant, on appelle ça des séries, mais c'est un téléroman. C'est que, tout d'un coup, t'es connu comme... C'est parce qu'on était tellement des personnages familiers qu'on pensait que Gilbert Lachance, c'était Marc-André, Dumoulin, Chambre-en-Ville, Chaton, Minou, Patricia Paquin, Geneviève, le sportif. Mais j'étais pas ce gars-là, moi. Ça, c'était mon personnage. Tant mieux si les gens y ont cru. Puis j'ai trouvé ça formidable, tu sais. Mais là, les gens me reconnaissaient pour quelqu'un que j'étais pas. Fait que j'ai dit, mais oui, mais là, t'as pas le temps de... Quand les gens te croisent en rue, tu peux dire, oui, mais attendez, moi, j'ai aussi d'autres intérêts, je suis telle personne. T'as pas le temps de faire ça, évidemment. Fait que c'était très étrange.
Vous étiez tous des jeunes acteurs. On vous connaissait tous pas ou peu à l'époque. Mm. Est-ce que c'était quelque chose qui vous unissait? Vous avez tous vécu ça en même temps?
Oui, effectivement. Ah oui, on était très unis. On a fait tellement d'événements caritatifs. Le chaînon, des handicapés... on en a fait plein, des télétons. On était là tous ensemble, on déconnait ensemble. Hey, c'est ça, on était des petits culs, là. C'est la garderie, là. Louise Deschâtelet, là, c'est une sainte. Sainte Louise Deschâtelet, là.
Fait que c'est son rôle dans l'émission, c'était presque son rôle sur le plateau.
Totalement.
Elle gérait des jeunes énervés.
Mais totalement.
À l'écran et en dehors.
Écoute, les scènes de fin d'émission, souvent, il y avait comme un banquet, un peu comme dans... Je pense que Sylvie Payette... Elle s'est inspirée d'Astérix, je suis sûr. Le bard, lui, il jouait, par contre, c'était Grégory Charles. Mais le bard, il n'était pas attaché dans le fond. mais ces soupers-là, c'était interminable à tourner parce que Grégory puis Francis se pitchaient des boulettes de bouffe puis nous autres, on était en dessous de la table en train de se détacher des lacets. Je veux dire, c'est n'importe quoi, là. Fait que vous avez pas vu ça, mais c'était vraiment le free-for-all. Bon, on s'est beaucoup amusé. Mais les gens aimaient ça. Puis je pense que les gens ont leur senti. Puis ça a aussi participé du succès de ça, c'est qu'il y avait une cohésion, il y avait du fun au-delà des drames qu'on jouait. Il y avait cette énergie-là qui nous unissait, qui a participé du succès aussi de l'émission.
Pour illustrer la crise du logement, le bye-bye a remonté Chambre-en-Ville.
Quel flash!
Et c'est un des sketchs qui a marché le plus, évidemment, c'était des retrouvailles pour des personnages qui ont marqué toute une génération. C'était
quel job de perruque!
Oui! C'était quand même pour vous autres de vous retrouver dans la cinquantaine, soixantaine, avec ces personnages-là que vous jouiez.
C'était génial. Les fous rires qu'il y a eu, c'était écoute. Puis surtout, mettre nos costumes, là, je veux dire, ça c'était très, très drôle. Là. J'ai trouvé ça, de la part du bye-bye des créateurs, une idée incroyable. Je veux dire, la crise du logement, tout marchait. Il y avait une espèce de c'était comme le temps de remettre Chambre-en-Ville, tu sais, comme un souvenir. Et la crise du logement, et les jokes, et la dérision, tu sais, tourner les personnages en dérision. Moi, j'aime beaucoup ça, tu sais. J'essaie de pas me prendre au sérieux dans la vie. Puis là, c'était l'occasion de le faire. Et un des fantasmes que j'avais quand j'étais dans Chambre-en-Ville, c'était de faire de mon personnage un personnage humoristique, un espèce de gars qui s'enfargerait ou une espèce de slapstick. J'aurais aimé ça que mon personnage soit un peu rigolo. Ben, j'ai été l'amoureux, le mari attentionné. C'est comme ça qu'on m'a connu. Mais ce qui est quand
il
même
était quand même maladroit, Marc-André.
Oui, il pouvait dire des conneries de temps en temps, effectivement. Mais c'était pas dans une perspective humoristique. J'avais toujours eu le goût de faire quelque chose de drôle avec ça, mon personnage. Puis là, ben, c'était l'occasion de le faire. Ben là, oui, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais... C'est Chaton qui s'en va faire du OnlyFans. C'est incroyable. Là. C'est trop bon. Là.
Le doublage est arrivé à quel moment dans le parcours? Est-ce que c'est arrivé dès le départ?
Dès le départ. Moi, enfant, ça a commencé. Pour te dire comment ça a commencé jeune, là, je parlais pas encore. Ok. Puis ma mère est allée voir le médecin parce que je faisais des drôles de bruits avec ma bouche. Puis le médecin lui avait dit, « Madame, inquiétez-vous pas, il explore des bruits avec sa bouche, c'est pas grave, tu sais. » Fait que là, je dis, « Je sais pas ce que je faisais. Surtout, c'était probablement quelques octaves plus haut. Mais donc, ça a commencé là à vouloir jouer avec ma voix. J'ai toujours aimé ça, changer ma voix. Fait que à l'école, ben c'était mes professeurs que j'imitais, puis des bandes dessinées. À l'époque, c'était Grand Galop et Petit Trou. Petit Trou, Grand Galop. Puis j'en ai fait là tout le temps, comme naturellement. Et quand j'ai fait le conservatoire, il y a eu des cours de doublage. Et ça, ça m'a vraiment intéressé. Puis tout de suite, quand je suis sorti du conservatoire, que j'ai eu les permis, j'ai été membre en règle de l'Union, parce que techniquement, il faut être membre de l'Union pour faire du doublage. Je suis allé donner ma petite cassette dans les studios, puis j'ai attendu dans les couloirs pour faire un essai. Puis là, ben, ça a démarré comme ça. Puis le premier gros rôle que j'ai eu, c'est Les Amis Ratons.
Eh oui, Benoît Laveur.
Benoît Laveur! Hé, Cédric! Est-ce que tu vas aller jouer dans la forêt des sapins verts?
Voilà. Fait que c'est ça. C'est comme ça que ça a commencé. Mais ça a vraiment déboulé, là. Puis j'en suis très, très, très heureux.
Mais on a l'impression, des fois, que dans le regard des gens, c'est les acteurs qui ne travaillent pas, qui vont faire du doublage. Es-tu tanné de ce regard-là? As-tu l'impression que c'est le regard qu'on a?
J'espère que ça a changé. J'ai l'impression que oui. En tout cas, beaucoup d'acteurs veulent faire du doublage. Il y a des très grands acteurs. Bruno Marsil fait du doublage à Anne Dorval. Xavier Dolan, il a commencé avec du doublage. C'est comme ça qu'il a pu financer « J'ai tué ma mère et avec plus d'autres aides. Mais vraiment, il a tout mis ce qu'il y avait là-dedans, lui. C'est un passionné du doublage. Et c'est parce qu'on pense que le doublage, c'est juste faire de la voix puis articuler, mais... C'est tellement pas ça. Il faut vraiment jouer. Là.
Oui, ben oui.
Et c'est d'autant plus difficile que t'as pas la situation physique. Tu es dans un studio tout nu. Pas tout nu, mais tout seul. Pas tout nu. On n'est pas tout nu. Pourquoi j'ai dit tout nu, moi? Non, on est habillé, mais on est tout seul, souvent, devant le micro. Puis là, faut bouger. Moi, quand je fais Tom Cruise, là, qui est suspendu après un train...
Sente dans sa voix.
Faut qu'on soit essoufflé ou qui est dans son jet. Puis que... Il faut qu'il respire parce qu'il y a 5, 10G qui poignent en tournant. Là. Ben, il faut le faire, ça. Puis c'est très... Comme quand j'ai fait Mission Impossible, là, c'était fatigant. J'étais là toujours tendu, puis il fallait que je me crispe pour que ça soit crédible. Fait que c'est vraiment des comédiens qui font du doublage. Et en plus, la qualité de plus, c'est qu'il faut le faire, il faut jouer avec émotion, avec authenticité, comme... une autre personne, pas comme nous-mêmes.
Ouais, non, c'est ça.
Faut jouer
comme un autre acteur. Ouais.
L'autre, là, moi, tout, j'aurais pas pleuré là, me semble. Mais oui, mais lui, il pleure là. Fait que pleure. Ouais,
t'es obligé de pleurer.
Fait que tu le fais, puis faut que tu pleures. Faut pas que tu fasses... faut que tu pleures, là. Fait que c'est ça. C'est le défi du doublage. Donc, non, ce ne sont pas de faux comédiens. Les doubleurs sont des acteurs et des actrices.
Est-ce que les cartoons, c'est les choses les plus fun à faire? Parce que
oui.
C'est des univers complètement pétés.
Je le confirme. C'est le super le fun à faire.
Peut-être pas le papa de Caillou, parce qu'il est un petit peu... Je fais le papa de Caillou.
Oui, il fait pas grand-chose, le papa de Caillou.
Il est tellement gentil, lui. Il n'y a pas trop
il
de choses à jouer.
Pas souvent,
mais là, il
fait
un dinosaure, fait que c'est plus le fun. Okay. On peut faire des petits personnages.
Mais non, j'ai rien contre Caillou, là. Mais je fais des blagues. Mais faire Grou, faire Krusty, puis dans les Simpsons, je fais aussi le professeur Frink, hein, Glavin?
Je fais le gars des bandes dessinées aussi, qui vend des cartoons à Bart.
Je fais carte de la centrale à nucléaire qui est l'ami de Lenny, n'est-ce pas? Homer, voyons, on ira prendre une bière. Ah, elle est déjà prise.
Qu'est-ce que je fais d'autre dans les Simpsons, juste pour que...
Je fais un personnage qui parle de même, mais je sais même pas son nom. Il est comme drabe. Fait qu'il est pas intéressant, mais c'est pas grave. On le fait pareil.
Il y a...
Bumblebee. Aïe, aïe, aïe. Bumblebee, on le voit moins souvent maintenant.
Bumblebee.
Ah, il y a le Squeaky Voice Teen aussi. Celui qui a la voix cassée, l'adolescent, qui parle de même. Moi, de la crème en glace à Bart.
Ouais, c'est pas mal ça, là.
Mais c'est ça que je disais, les cartoons, c'est des univers complètement pétés.
Ouais.
Il y a quelque chose d'amusant là-dedans, c'est un terrain de jeu fantastique.
C'est un terrain de jeu fantastique, puis il faut vraiment incarner le personnage. T'sais.
Quand je fais mon personnage de bande dessinée, il faut vraiment que je me sente un petit peu supérieur à toi, mais en même temps, il faut que je zozote. Puis, c'est comme ça.
Il faut que tout de suite, tu pognes l'essence du personnage. Parce qu'il faut que ça soit authentique, même si c'est caricatural. Puis c'est ça qui est merveilleux dans la bande dessinée, c'est d'aller trouver... Puis de varier les rythmes. C'est comme de la musique, hein.
Mm-hmm.
C'est très musical, tout ça. Parce qu'il y a une rythmique qui fait que quand tu dis une affaire d'une certaine façon, ça va être plus drôle que si tu l'as dit juste d'une façon straight, tu sais. Fait que c'est... Il y a tout ça. Il y a beaucoup de musiciens doubleurs ou de doubleurs musiciens. Okay. Beaucoup, souvent c'est le cas. Parce que ces gens-là ont une oreille. Ils sont capables de mimétisme aussi.
Ça, c'est les spectacles, j'imagine. Les spectacles. Le prochain objectif, c'est ça?
Oui, effectivement, c'est ça. C'est totalement ça. Mais là, c'est dur d'amener des gens voir un spectacle alors qu'ils n'ont pas connu la musique encore. Hein? Fait que c'était un petit peu l'œuf ou la poule. Je commence par quoi? Fait que là, j'ai lancé l'album Cinéma intérieur qui est disponible sur toutes les plateformes et aussi sur mon Bandcamp. Bandcamp, là, c'est une plateforme que j'aimerais faire découvrir, me le permets-tu?
Ouais, vas-y.
C'est une plateforme de musique. Charlotte Cardin vient de faire paraître quelque chose là, sur son Bandcamp. Là, moi, je suis abonné à son truc, à Charlotte Cardin. Puis, j'ai vu ça passer dans mes courriels. Donc, c'est Bandcamp, un bandcamp.com. Puis là, vous mettez dans recherche un artiste que vous aimez, pour lequel vous voudriez... le suivre, premièrement, acheter son album physique ou numérique, mais qui vous appartient vraiment à vous autres, pas juste par le truchement de on sait c'est quoi les plateformes. Ça permet à ces gens-là de vivre de leur art, carrément. Là. Fait que moi, j'ai aussi un Bandcamp.
Il y a du matériel de plus, non?
Il y a du matériel de plus, oui, effectivement. Il y a des bonus. Alors, allez voir ça. Donc les spectacles, ben oui, j'en fais à Belœil fin août. Je vais le mettre sur mon Bandcamp. Et puis, je vais en faire aussi à Drummondville. Et je suis en train de bâtir ça, mais j'aimerais bien vous donner des dates, mais j'en ai pas. Mes diffuseurs, appelez-moi pour que me bookiez, tabarnouche.
Mais as-tu hâte d'aller à la rencontre des gens? C'est ce que tu disais tantôt.
Mais j'ai très hâte.
Présenter ce que tu avais dans la tête toutes ces années-là.
Mais oui, j'ai très, très hâte. Puis comme j'en ai glissé un mot tout à l'heure, dans mon spectacle, j'interviens beaucoup entre les pièces en tant que telles. Puis moi, je suis un amateur de physique quantique, OK? Je le dis pas fort parce que ça fait peur au monde. Mais j'essaie de trouver un angle comique à ça, puis... Je suis très content parce qu'au lancement, les gens ont beaucoup ri, puis c'est pas lourd. Les gens.
Ouais, mais ça pourrait être lourd.
Ça pourrait être très lourd. Puis c'est ça mon défi, c'est que ça soit pas lourd, que ça soit rigolo. Fait que Einstein débarque sur scène, je vous en dis pas plus. Et il me parle comme ça, et il m'appelle Berthe, et Gilberte. Alors, et vous allez pouvoir entendre Einstein me parler de la physique quantique et des photons. Parce que les photons, c'est une pièce que j'ai composée sur mon album Cinéma intérieur. À cheval sur un photon, c'est justement inspiré d'une expérience d'Einstein. Fait que là, vous pouvez écouter la toune. Et je fais des jokes avec ça. Fait que c'est ça. Oh, mes spectacles sont ponctués d'interventions sur... l'origine de mes pièces, Mariposa, qui est un papillon, sur la métamorphose, moi qui me métamorphose parce que, bon, tout d'un coup, je suis devenu musicien, d'où c'est qui sort ça. Toutes les pièces ont une résonance dans ma vie personnelle, que j'explique, puis que je partage. Voilà, fait que je n'ai pas de date à te donner précisément, malheureusement.
Ben nous, on va espérer te voir en spectacle ici, dans la région.
Ben je le souhaite ardemment. Vous avez des super belles salles. La salle, comment ça? Attitude? C'est-tu Attitude?
Azimut.
Ouais. Azimut. C'est super. Je suis allé voir Jean-Michel Blais, là, d'ailleurs. Puis c'est super. C'est tellement un beau format de salle. J'adore ça. Des salles intimes, tu sais. Je trouve ça... Oui, c'est mon rêve. Mais il faut que je le bâtisse encore en ce moment.
On va surveiller tes dents, Gilbert. Merci d'avoir été là.
Merci beaucoup.